et bienvenue dans cette nouvelle saison d'émission d'Arrêt sur Image. Si toutefois vous avez survécu à notre remarquable série d'émissions d'été sur l'effondrement, mais il n'est pas trop tard encore pour les regarder. Alors certains d'entre vous, j'espère, ont lu tous nos articles pendant l'été consciencieusement. Je crains que d'autres ne l'aient pas fait aussi consciencieusement. Aussi, cette émission de rentrée sera-t-elle conçue comme un rattrapage sur tous nos sujets eux-mêmes, bien sûr, tous les sujets, enfin les principaux sujets que nous avons traités pendant l'été, et aussi sur leurs coulisses et les méthodes avec lesquelles nous avons enquêté avec deux des journalistes qui ne sont pas encore en vacances dans la rédaction, Linda Zerouk, journaliste, et Julie Lemest, en stage chez nous, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est votre dernier jour de stage, super dernier jour. Alors avec le reste de l'équipe, vous, c'est Juliette Gramalia, Manuel Vicugna, Hélène Ascour, c'est vous qui avez traité les grands sujets de l'été. Alors je veux parler des accusations contre Corbyn, de l'agression raciste de Beaune et bien sûr les deux grands feuilletons qui nous ont occupé une partie de l'été, c'est-à-dire l'affaire Benalla et les déchirements internes aux médias. Déchirement par lesquels nous allons commencer cette émission. Linda, alors, question de rentrée, est-ce qu'on peut résumer en quelques phrases l'été du média ?
Oui, le média a connu une nouvelle crise à la mi-juillet. C'était lors d'un séminaire qui s'est déroulé durant 15 jours. Et durant ces 15 jours, l'équipe s'est livrée à une guerre intestine avec d'un côté Sophia Chikirou, qui est l'ex-fondatrice, cofondatrice pardon, du Média et ex-directrice du Média et ses alliés, face à la nouvelle direction avec la journaliste Aude Lancelin.
Et nouvelle patronne de la rédaction.
Tout à fait. Et les deux autres cofondateurs qui sont Henri Poulain et Gérard Miller.
Voilà, Gérard Miller très connu et Henri Poulain moins que... Voilà, ça c'est Gérard Miller. Et Henri Poulain, moins connu, qu'on voit ici. C'était, alors, l'image a été prise pendant l'émission de lancement du Média. C'était l'an dernier.
Tout à fait. Et donc, il y a eu une crise violente et elle a débouché sur la révocation de Sophia Chikirou, qui n'est plus, du coup, à la tête de la société de production du Média, mais aussi elle n'est plus à la tête de la société de presse du Média. Et entre-temps, Mediapart fait des révélations. On apprend qu'elle se rémunérait à hauteur de 400 euros par jour pour des prestations de conseil. Pour le dire vite, en gros, elle se donnait des conseils à elle-même à hauteur de 400 euros.
Voilà. Donc, alors l'été, c'est il y a ce séminaire, elle est débarquée. Ensuite, courant août, hein, c'est courant août qu'on apprend que effectivement des factures sont révélées. Enfin, on apprend que la société de production de Sophia Chikirou avait adressé des factures aux médias dirigés par Sophia Chikirou, qu'une de ces factures a été honorée et que la nouvelle direction en a bloqué une autre. Enfin, tout ça dans des conditions très très compliquées.
Ouais. Oui, et justement, pour sa défense, qu'est-ce qu'elle dit, Sophia Chikirou? Elle déclare auprès de Mediapart qu'elle n'est pas la seule, justement, à avoir fait facturer des prestations. Elle explique que les deux autres sociétés des cofondateurs, donc Henri Poulain et Gérard Miller, ont aussi facturé des prestations via leur société de production. Et donc, ça nous a titillé, on a décidé d'enquêter sur ce point.
Pour savoir si c'était une accusation qu'elle avait lancée comme ça dans le vide ou si c'était vrai que les autres cofondateurs était aussi dans la même situation qu'elle, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Alors effectivement, on n'est pas dupe, hein, qu'au moment où elle tient ces déclarations-là, Sophia Chikirou cherche à faire en sorte de ne pas tomber toute seule. Mais ça nous appartient quand même d'enquêter. Donc j'ai appelé trois quarts de la rédaction du Média. En faisant toutes ces interviews, on m'envoie plusieurs chiffres, des communications internes, on m'envoie des documents. Et je demande plusieurs preuves pour vérifier si oui ou non les sociétés des deux cofondateurs facturent bien des prestations.
Alors, dans les documents qu'on vous envoie, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont sérieux, ces documents?
A priori, ils sont sérieux parce que j'ai à la fois des communications internes et j'ai
des mails.
Des mails, j'ai des factures, j'ai des devis. A priori, ils sont sérieux. D'ailleurs, la source aussi est très sérieuse puisqu'elle est à une position qui est tout à fait plausible pour détenir ce type de document. Mais,
alors, voilà. on voit derrière vous, là, par exemple, alors un document avec plein de chiffres marqué Story Circus. C'est quoi?
Alors, Story Circus, c'est la société de production d'Henri Poulain, qu'il a cofondée d'ailleurs avec son associé Hervé Jacquet, qui est actuellement à la tête de l'association du Média.
L'association du Média, c'est l'association qui perçoit les contributions des sociaux.
Exactement. Voilà.
Alors, de quoi s'agit-il? Ça prouve quoi, ce document-là?
Ça prouve qu'il facture, en effet, auprès du média, diverses prestations. Et là, on en a pour un total de coûts de production de 61 900 euros.
D'accord. Ça, c'est la société d'Henri Poulain. Hein. Il a facturé 61 000 euros aux médias.
Voilà.
Alors, par exemple, pourquoi?
Pour diverses prestations, comme je disais, la création du logo du média, par exemple. On a
alors,
aussi...
ça, ce n'est pas le logo du média, c'est le logo d'Arrêt sur Image.
Voilà, effectivement.
Ça coûte beaucoup moins cher.
Effectivement, parce que c'est vrai que la création du logo a coûté 6 000 euros hors taxes. Et d'autres prestations, comme la création de vidéos animées, ce qu'on appelle les motion design, c'est des vidéos animées sur des thèmes précis. En l'occurrence, par exemple, sur les milliardaires qui détiennent la presse. On va regarder un petit extrait.
Voilà.
Voilà maintenant des années que 9 milliardaires font le bonheur des médias grâce à leur généreuse participation. Sympathiques, débonnaires et bienveillants, nous voulions vous les présenter. Martin Bouygues, un honnête commerçant du BTP, il aime l'Afrique et les téléphones portables. Selon lui, tout n'est pas une question d'argent. Pas mieux. Xavier Niel, passionné des réseaux de télécommunications, il cultive un amour immodéré, parfois même charnel, du Minitel. Son entreprise est le terrain de jeu préféré d'Élise Lucet. Serge Dassault, vendeur d'avions en rafale, philatéliste en herbe, il adore envoyer des enveloppes à ses électeurs. Ah oui, il est aussi politique. Quitte à s'arranger avec la loi, autant l'écrire. Ils sont 9. Le 11 octobre prochain, nous vous dévoilerons le 10e. Soyez nombreux, car sans vous, il ne viendra pas.
Voilà, alors ça, c'est une petite vidéo d'animation, donc produite par la société du cofondateur Henri Poulain, facturée aux médias. Par exemple, cette vidéo, elle a coûté combien? Elle est facturée combien?
6 245 euros hors taxes.
Voilà. Bon, alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'effectivement, ces chiffres, par rapport aux prestations qui sont facturées, ne nous ont pas paru extravagants. On est dans les montants à peu près ordinaires, pour autant qu'on ait des points de comparaison hein, avec les tarifs qui se pratiquent dans les médias équivalents, c'est-à-dire dans la presse en ligne.
Oui.
À la télé, ça coûte beaucoup plus cher. À la télé, une vidéo comme ça, ça coûterait 10 fois plus, mais dans la presse en ligne, les prix sont plus bas. Voilà. Donc on vous envoie ce document, mais comment on peut être sûr que ce document est authentique et qu'il n'a pas été trafiqué par les anti-Poulain, c'est-à-dire par les pro-Chikirou?
Comme je vous ai dit, j'avais déjà des communications internes qui reprenaient un petit peu ces chiffres, mais le plus simple pour vérifier, c'est d'appeler directement le concerné, donc Henri Poulain, qui a forcément eu connaissance de ces factures, puisque c'est sa société.
Je
l'appelle et puis on a une longue, longue conversation.
Il vous accueille comment?
Alors, il est plutôt...
Il est furieux, il demande pourquoi on enquête sur ces ragots infâmes, etc.
Contre toute attente, il était très content que je l'appelle parce que depuis quelques jours, des rumeurs couraient sur son compte disant qu'il avait facturé à hauteur de 140 000 euros, toutes taxes comprises, aux médias. Et qui a fait courir cette rumeur? C'est justement Sophia Chikirou. On a retrouvé d'ailleurs un post Facebook sur lequel elle l'accusait, elle lançait toutes ses accusations. Donc il était bien content de pouvoir parler à la presse.
C'était pas 140 000, c'était que 60 000, mais 60 000 hors taxes.
Que 60 000 hors taxes, effectivement. Voilà. Et donc, il m'a plutôt bien accueilli. On a pu discuter longuement. Et lui, il s'est défendu en disant qu'il ne recherchait pas du tout à gagner de l'argent sur le média, puisqu'il facturait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au tarif du marché. Et que par ailleurs, on a découvert aussi qu'il n'a pas été payé de l'intégralité de ses factures.
Voilà. Et il va demander à être payé de l'intégralité?
C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il allait demander à être payé de l'intégralité, mais il ne le demande pas tout de suite parce que la situation financière du média ne le permet pas, mais qu'elles sont suspendues jusqu'à ce qu'ils aient une meilleure santé financière.
Et d'une manière générale, vous dites que vous avez appelé les trois quarts de l'équipe du média. Vous avez été accueillis comment?
Alors, la plupart ont toujours, ils ont tous été contents de parler, ils avaient des choses à dire, que ce soit du camp chiquiriste ou du camp de Haut-de-Lancelin, tout le monde avait envie de parler, mais à chaque fois, tout le monde me disait de faire attention, de bien préserver leur identité. J'ai même reçu une rafale de mails.
De ne pas les citer nommément.
De ne pas les citer nommément, des choses qui ont été dites en off, donc... Même s'ils avaient envie de parler, c'était toujours...
En même temps, Poulain, par exemple, vous me dites que Poulain vous a parlé. Donc Poulain, lui, il ne demandait pas le off.
Poulain, en revanche, effectivement, il ne demandait pas le off. De même que j'avais interrogé aussi, par exemple, Théophile Kouamouo, qui ne demandait pas le off. mais un certain nombre.
Ah ouais, alors, donc, du coup, ça veut dire que dans le camp, parce que Théophile Coimeau, donc, est le nouveau rédacteur en chef du média nommé par Aude Lancelin, donc oui. Dans le camp Lancelin, on parle à visage découvert, mais en revanche, dans le camp Chiquirou, on demande le off, c'est bien ça?
On ne peut pas véritablement dire ça, mais on va dire que dans le camp chiquiriste, effectivement, beaucoup, la plupart, n'ont pas souhaité que leur nom apparaisse dans nos articles.
Ils ont peur de quelque chose ?
Oui, alors beaucoup m'ont dit que Serge Faubert, qui est journaliste aux médias, vient de recevoir un
avertissement. Du camp Chiquirou.
Du camp Chiquirou vient de recevoir un avertissement parce qu'il s'est exprimé dans la presse. Il a accusé via Le Monde la nouvelle direction de communautarisme sans jamais apporter la preuve. Et le fait qu'il ait reçu cet avertissement après s'être exprimé au Monde, tout le monde craint maintenant de parler à la presse, a priori.
Y compris à nous d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, on peut le dévoiler, c'est la raison pour laquelle on ne consacre pas cette émission de rentrée spécifiquement aux médias, ce que nous souhaitions faire.
Oui, on aurait bien aimé faire une émission sur le média. D'ailleurs, encore une fois, j'ai appelé les trois quarts de l'équipe pour les inviter, mais à chaque fois, on m'a opposé des refus, à l'exception de Théophile Coimeau, donc le nouveau rédacteur en chef en charge du pôle actualité du média, qui lui a accepté ce rendez-vous, mais malheureusement, personne pour le confronter.
Alors évidemment, la question qu'on peut se poser à nous-mêmes, après l'enquête que vous avez faite, c'est de demander si on n'a pas fait la com de Sophia Chiquirou. C'est-à-dire, Sophia Chiquirou souhaitait dire, vous voyez, oui, c'est vrai, j'ai facturé, ma société a facturé aux médias, mais je n'étais pas la seule, les autres aussi. Et nous, on confirme que les autres aussi. On n'a pas fait la com de Chiquirou.
Non, comme je le disais, on n'est pas dupe de ce jeu de provocation. Mais ça me paraissait essentiel, à partir du moment où elle livre cette information dans la presse, et là, en l'occurrence, à Mediapart, de vérifier si ce qu'elle dit est exact. En l'occurrence, les deux sociétés, que ce soit simplement la société de Gérard Miller ou Story Circus, la société d'Henri Poulain, facturaient bien des prestations. Et je tiens à souligner aussi que si jamais on avait constaté à travers notre enquête qu'ils ne facturaient aucune prestation, ça aurait tout autant mérité un article.
Ah bah, j'approuve. Tout autant. Alors, pour en savoir plus sur le média, si vous avez raté des épisodes de l'été, on a sur le site d'Arrêt sur Image un dossier complet sur les développements de l'été. Alors, une toute autre affaire que vous avez traitée, vous, Julie, une agression à Beaune.
Oui, donc ça commence début août. En fait, début août, il y a peu de choses dans la presse, rien dans les...
Elle a lieu quand l'agression?
L'agression, elle a lieu en fait dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 juillet.
D'accord.
Ça se passe à Beaune, en Côte d'Or. Et donc, un groupe de jeunes qui étaient dans un parc la nuit se fait tirer dessus. Donc, il y a 7 qui sont blessés, dont 2 gravement. Quelques heures avant, ils avaient eu une altercation avec 2 hommes lors de laquelle il y avait eu des injures racistes de prononcer.
Donc, a priori, on peut penser que ça peut être une agression raciste.
Voilà, on peut le penser, mais c'est un peu flou parce que c'est en deux temps. À chaque fois, il y avait des voitures, ce n'est pas les mêmes voitures. Et donc, du coup, en fait, les JT reprennent assez peu les choses. Et c'est Twitter qui va ressortir l'affaire une semaine plus tard en montrant, par exemple, des vidéos que les jeunes gens ont fait eux-mêmes pour dire, bah voilà, il y a une agression raciste, elle n'est pas médiatisée.
Des vidéos dans lesquelles on voit effectivement leur corps criblé de plomb puisque c'était des carbines à plomb, voilà.
Voilà. Alors du coup, à partir de ça, on se demande comment ça se fait effectivement qu'on a assez peu parlé de ce sujet-là.
Pardonnez-moi, alors quand on dit Twitter, ça ne veut pas dire grand-chose. Qui sort l'affaire sur Twitter?
Oui. Ce sont des militants antiracistes. Là, d'accord. Par exemple, c'est Sia Masbag.
Sia Masbag, qu'on connaît bien puisqu'elle a fait une enquête pour nous avant les vacances, voilà.
Voilà.
Donc on a cette situation où des militants antiracistes disent sur Twitter qu'il y a une agression raciste. Par rapport à ça, les médias traditionnels...
Les médias traditionnels, au niveau national, ont assez peu traité. Alors, c'est apparu parce qu'il y a eu des dépêches AFP. Donc, en fait, ça a été repris. Les dépêches ont été reprises. Il y a un sujet de France 3 Bourgogne qui a un peu fait le tour. Mais en fait, les médias ne savent pas tellement comment se positionner. Et la raison, c'est qu'en fait, il y a plusieurs thèses qui sont... en termes d'interprétation, assez contradictoire. En fait, la première thèse qui va sortir, et c'est celle qui est reprise par la première dépêche AFP, c'est celle qui dit qu'un règlement de compte est privilégié.
Par le parquet.
Par les enquêteurs. Ça apparaît le lundi matin. Et en fait, c'est une thèse apparaît vraiment très tôt et qui est très vite démentie par le parquet, parce que le parquet, son discours officiel dès le lundi, c'est que toutes les pistes sont ouvertes. Donc, ce n'est pas forcément un règlement de compte. Ça peut en être un, mais toutes les pistes sont ouvertes. Le soir, il y a le reportage de France 3 Bourgogne où ils interrogent certains témoins. Et là, les témoins parlent des injures racistes, justement. Donc ça met aussi la puce à l'oreille.
Des témoins, donc, parmi les jeunes qui étaient sur place, parmi le groupe qui était visé.
Alors, parmi les proches, parmi le groupe, il y a un témoin du groupe et il y a un témoin qui est un proche du groupe.
D'accord.
Voilà. Donc, en fait...
Le témoin proche du groupe, il était là le soir ou pas? D'accord. S'il n'était pas là, il n'est pas témoin.
c'est les personnes qui sont interrogées par France 3. Donc, en fait, on sent qu'il y a un brouillage au niveau des rédactions. Il y a pas mal de titres qui disent « règlement de compte » ou « attaque raciste ». Et on sent que les médias ne savent pas trop comment se positionner. Parce que si c'est un règlement de compte, bon, en langage codé, c'est presque circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, c'est assez peu traité.
C'est des racailles entre eux, quoi. Traduction.
Traduction. Et si c'est une attaque raciste, au contraire, ça mérite une couverture médiatique au niveau national. Donc, il y a ce flou. Dans le cadre de ce flou, il n'y a pas tellement de correspondants ou d'équipes de télé qui sont dépêchées sur place. Et en fait, justement, le 7 août, SOS Racisme, notamment, fait une tribune, un communiqué, où ils disent « non, ce n'est pas un règlement de compte ». Où ils prennent position, en fait, en disant « c'est pas un règlement de compte ». Et ils mettent même en cause la communication du parquet en disant « rien n'étaye la thèse du règlement de compte, on minimise une attaque raciste ».
Bon, alors là, je vois sur le facsimilé de notre propre article, là, que nous, on réagit par un article le 11 août. Alors, pourquoi on réagit 10 jours après et qu'est-ce qu'on essaye de savoir, en fait?
Alors, nous, ce qu'on essaie de savoir, en fait, l'article, il a été publié après l'arrestation des auteurs. Donc là, on savait que le parquet avait retenu des circonstances aggravantes de racisme. Mais au moment où je fais l'enquête, on ne le sait pas encore. Les auteurs n'ont pas été arrêtés et on n'a pas de communication officielle. Et moi, c'est comme le reste de la presse, je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc, mais je ne sais pas comment évaluer la situation. Et en fait, le déblocage, et ce qui permet de comprendre aussi pourquoi toute la presse est restée dans l'entre-deux, c'est au moment où j'interroge un journaliste du bien public, donc le quotidien local de la Côte d'Or, qui a une agence à Beaune, et qui m'explique en fait en quoi consiste la piste du règlement de compte, pourquoi le parquet ne privilégie pas une thèse raciste. Il me dit, en fait, il y a plusieurs éléments qui laissent à penser que les auteurs ne sont pas là pour des raisons racistes. Notamment, il y a eu une agression en juin. Pour finir, l'agression n'a pas de lien, a priori, avec l'attaque de juillet.
C'est-à-dire que le parquet a relié l'agression de juillet à une précédente agression de juin.
En fait, il y avait différents éléments qui poussaient à penser que peut-être ça avait un lien avec une thèse liée à du banditisme, mais qu'il n'y avait pas de lien avec les jeunes, en fait.
Alors là, je suis perdu, là.
D'accord.
Donc, le parquet relie le parquet quand il découvre et quand il traite l'agression de juillet, il la relie à une agression de juin qui s'était aussi déroulée à Beaune.
Et en fait, où là, l'agression, a priori, les personnes qui l'avaient commise semblaient chercher quelqu'un pour des raisons liées au banditisme.
D'accord.
Donc en fait, ce qu'il me dit, c'est ça peut être des mecs qui cherchent quelqu'un, ils ont pu tomber sur les jeunes, et ça peut ne rien avoir à voir avec les jeunes. Et en fait, quand il me dit ça, pour moi, ça s'éclaire, je me dis, en fait, quand on utilise le terme « règlement de compte », effectivement, et c'est ce que critiquait SOS Racisme, ça pose un doute sur les jeunes. Et du coup, ça brouille les choses parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils sont un peu coupables ou est-ce qu'ils sont complètement victimes? Alors que quand on dit, il y a une thèse du banditisme, mais les jeunes ne sont pas forcément liés, eh ben, ça permet d'examiner les faits de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus posée.
Très bien. Donc voilà. Finalement, au total, vous avez compris pourquoi le parquet avait utilisé improprement le mot règlement de compte et pourquoi finalement toute la presse avait été perdue un peu entre les différentes thèses. Voilà, on lira tout ça dans votre article et dans un second article que vous avez fait derrière sur une autre rumeur concernant cette affaire selon laquelle l'agression avait été commise par des gens du voyage, rumeur qui s'est ensuite avérée fausse. Voilà,
complètement sans fondement.
Deux articles sur cette affaire. Alors, je sens que nos abonnés piaffent maintenant et qu'ils disent et l'affaire principale de l'été, l'affaire Benalla. Qu'est-ce que Arrêt sur Image a fait sur l'affaire Benalla? Alors, l'affaire Benalla, je la résume, c'est moi qui vais la résumer, pour ce que j'en ai compris, si vous étiez sur la planète Mars. L'affaire Benalla, il s'agit donc d'un conseiller d'Emmanuel Macron, conseiller pour la sécurité d'Emmanuel Macron, qui s'est retrouvé le 1er mai en train de rudoyer et de remettre à la police des manifestants contre la réforme de la loi travail. Alors ça s'est passé le 1er mai. Benalla, qu'on voit ici avec avec un casque de CRS, portait par ailleurs à d'autres moments de la journée un brassard de police, il avait un talkie-walkie de police, la vidéo de cette interpellation, c'est-à-dire ce conseiller qu'on retrouve en train d'aider la police dans une manifestation, cette vidéo est publiée donc le 20 juillet par le journal Le Monde, énorme scoop du Monde. Énorme scandale politique de plusieurs semaines qui va notamment donner lieu à deux commissions d'enquête, une commission d'enquête parlementaire qui va exploser en vol entre la majorité et l'opposition et une commission d'enquête du Sénat qui, elle, a interrompu ses travaux pendant le mois d'août mais devrait les reprendre là en septembre. Alors, moi, j'étais très loin, très loin de tout ça, enfin, en même temps complètement accro, mais j'étais sur des endroits où il était compliqué d'avoir de la connexion, donc je suivais quand je pouvais suivre, même assez souvent, le plus souvent possible.
Je confirme.
Mais alors, je n'ai pas l'impression que Arrêt sur image ait d'abord sorti énormément de scoops dans cette affaire.
Alors, c'est vrai, c'est une attaque, mais à notre décharge, on était en infériorité numérique. Ouais. Hein, comme c'était les vacances, vous savez qu'on n'était pas tous là à la rédaction. Et je pense qu'on a réussi tout de même à faire un tri dans cette avalanche de révélations. On a fait plusieurs articles pour montrer les points les plus saillants de cette affaire. Et je pense que d'ailleurs, je renvoie les abonnés à notre dossier. On peut avoir toutes les clés pour comprendre un peu comment s'est déroulée cette affaire.
Alors, soyez pas trop modeste, vous avez quand même sorti une vidéo.
Oui, c'est vrai. Et c'est grâce à une abonnée, d'ailleurs, que j'ai remercié sur le forum. Donc, une abonnée nous a envoyé un lien vers une vidéo sur Twitter. C'est une vidéo qui montre la suite de ce qui se passe sur la place de la Contrescarpe pour le jeune couple.
Et véritablement... Alors le jeune couple interpellé par Benalla et remis au CRS par Benalla. Là, dans les images qu'on a vues, on a vu qu'un garçon,
oui,
mais il y avait un couple en fait.
Voilà. Tout à fait, il y avait un couple. Donc il y a une jeune femme d'abord qui est traînée sur plusieurs mètres par Benalla, mais on ne sait pas ce qu'il advient de cette femme. Et grâce à cette vidéo donc, qui a été publiée par Sonia B. sur Twitter, mais qui n'avait pas été répandue dans la presse au moment où elle nous avait été signalée justement par cet abonné. Donc,
on est allé chercher cette vidéo sur le compte Twitter de la personne qui l'a filmée. Sonia B, c'est la personne qui l'a filmée.
C'est la personne qui l'a filmée. Elle était sur la place de la Contrescarpe et elle a filmé cette scène où elle disait que c'était très violent.
Alors, qu'est-ce qu'on voit sur... J'ai pas vu ce qu'on voit sur votre vidéo.
Alors, ce qu'on voit sur cette vidéo,
c'est... Si on peut la revoir.
Benalla, qui va traîner cette jeune femme, il va l'isoler... Et vous allez voir, il va avoir des gestes brusques à son égard, il va lui mettre une balayette,
voilà,
comme on dit familièrement.
Dans le jargon de la police, il lui met une balayette pour essayer de la faire tomber à terre.
C'est ça.
Voilà. Bon, et pour le reste, c'est vrai que c'est compliqué, si vous voulez, de savoir ce que nous, on peut faire, nous, un site de déconstruction du récit médiatique, ce qu'on peut faire en direct, quand pendant des jours et des jours et des jours, les médias, finalement, font leur travail, c'est-à-dire enquête. Enquête, sortent des scoops, sortent des vidéos, révèlent des choses. Donc, comme vous l'avez dit, ce qu'on a fait, ça a été d'essayer de dégager les points saillants.
Oui, mais j'ajouterais quand même une chose, c'est-à-dire que je pense notamment aux articles qui ont été faits par Manuel Vicuna et Juliette Gramaglia. On a aussi suivi les commissions au Sénat et les commissions à l'Assemblée nationale et on a fait beaucoup d'articles pour comparer justement comment les deux traitaient ces affaires.
Absolument. Oui. Alors, si on n'a pas sorti nous-mêmes de vidéos, en revanche, on est allé interroger quelqu'un qui produit beaucoup de vidéos.
Tout à fait. Donc, en fait, on est allé interroger Gaspard Glantz, qui nous a raconté, selon ses propres mots, sa première nuit avec Alexandre Benalla. C'est-à-dire, en fait, la façon dont lui et les autres vidéastes indépendants et les photographes se sont jetés sur leur rush le soir des révélations, le soir où le premier article qui a lancé l'affaire est tombé. Et donc, il raconte la façon dont il le trouve sur ses vidéos au bout de 45 secondes et puis qu'il va fouiller dans tous ses rushs pendant toute une nuit, en fait, une nuit de canicule en plus, en suivant sur Twitter, en tweetant au fur et à mesure, en recevant les tweets des autres. Donc, c'est une ambiance toute particulière qu'il a partagée avec nous.
Voilà, une affaire finalement qui a vu une espèce de collaboration entre les nouveaux médias, comme le site Taranis News de Gaspard Glantz, qui a sorti quand même une image très importante. C'est lui qui a sorti la première image qu'on voit là, où on voit Benalla avec le brassard police, qui montre bien ce qui montre bien l'usurpation d'identité.
Et le
talkie-walkie, oui. Et avec le talkie, et les médias traditionnels comme Le Monde, c'est quand même Le Monde qui est à l'origine de la... De la révélation de l'affaire. Alors, pas énormément de scoop dans la première partie de l'affaire, mais vous vous êtes bien rattrapé dans la deuxième partie. Alors, dans une affaire dans l'affaire, alors, je ne sais pas comment on peut la résumer, on peut dire que c'est la question de savoir si cette affaire Benalla a été gonflée sur les réseaux sociaux artificiellement, et notamment sur Twitter, par des comptes russophiles. Alors, des comptes russophiles ou des comptes manipulés par Poutine, on ne sait pas bien. Alors, comment cette accusation est-elle arrivée ?
Alors, ça commence par un tweet, et le tweet vient du cofondateur d'une ONG qui a mené une étude sur l'amplification de l'affaire Benalla. Il s'appelle Nicolas Vanderbiest, donc il écrit sur Twitter « En investiguant un peu plus l'affaire Benalla, on remarque une forte part de personnes qui ont tweeté plus de 300 fois en une semaine. Cette part a écrit 44% des tweets, et parmi ceux-ci, correspondance de 27% avec l'écosystème russophile. » Donc en gros, il explique que l'affaire Benalla a été amplifiée sur les réseaux sociaux au point qu'on a atteint des volumes de tweets encore plus importants que d'autres occurrences comme hashtag balance ton porc ou encore je suis Charlie. Alors effectivement, un tel volume de tweets, donc c'était 4 millions au total, ça interpelle. Et il rajoute que parmi ces comptes les plus actifs, on retrouve 27% de comptes russophiles appartenant donc à la russosphère.
À l'écosystème russophile. Sophie.
Oui, bah, ça laisse entendre qu'il y aurait un complot moscovite derrière. Donc forcément, on a envie d'enquêter, mais c'est d'abord BFM TV qui ouvre le feu avec un article qui reprend mot à mot cette étude. Deux jours plus tard, il y a une dépêche AFP qui tombe, et une fois que la dépêche AFP tombe, elle se propage à une vitesse grand V, cette information, dans l'Opinion, Libération, Paris Match, etc. On a donc cherché à en savoir plus.
Et alors, on a cherché à en savoir plus sur, effectivement, le sérieux de cette étude. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
Alors déjà, j'appelle les responsables parce que…
De l'étude ?
Les responsables de l'étude, effectivement, ce sont des analystes. Et il y a deux points, d'abord, qui soulèvent…
Alors, attendez, déjà, vous cherchez à savoir ce que c'est que cette ONG. Donc,
oui.
C'est quoi cette ONG ?
Alors, cette ONG, elle se présente justement comme une ONG qui est basée à Bruxelles. Et il se trouve…
Elle se présente comme… Elle est basée à Bruxelles, j'imagine.
Mais elle se présente comme une ONG. Et du coup, effectivement, elle est basée à Bruxelles. Et par contre, nous, en faisant nos recherches en amont, c'est-à-dire sur leur site, etc., ça manque foncièrement de transparence. Par exemple, on ignore tout de leur financement. Donc, j'ai quand même obtenu ces informations auprès du responsable. Donc, ils sont financés par Twitter à hauteur de 100 000 euros. C'est leur principal financeur. Et quasi exclusivement, puisque après, ils sont financés également par Erasmus+. Voilà. Et on apprend aussi, par ailleurs, que les partenaires qui étaient cités sur leur site Internet, on retrouve beaucoup d'organisations européennes et aussi américaines qui sont toutes engagées dans la lutte contre la désinformation et l'ingérence russe précisément.
D'accord. Donc voilà,
ça fait un point commun.
Comment dire, un média partial, on peut le dire ?
Alors,
c'est cette ONG, une ONG partiale ?
Moi, je les ai interrogés là-dessus. Ouais. Ils s'en défendent. Ils disent qu'ils ne sont pas partiels par rapport à ça. Ils disent simplement qu'ils traitent de l'actualité. Et il se trouve qu'il existe de sérieux doutes, de suspicions en tout cas, sur une ingérence du Kremlin. Et donc, ils traitent des études qui ont attrait à ça.
Et alors, sur l'étude elle-même, alors ? Que vous cherchez à savoir ce qu'il y a dans les entrailles de cette étude.
Alors, ce que je cherche déjà à savoir, c'est par rapport à cette hyperactivité. Il déclare qu'il y a une hyperactivité dès lors qu'il y a eu 300 tweets postés par semaine par des comptes sur une moyenne d'une semaine.
Donc, c'est vrai que 300 tweets par semaine, ça fait beaucoup, non ?
Non, parce que si on fait le calcul, un rapide calcul, on s'aperçoit que c'est 40 tweets par jour.
Bah, ça fait quand même beaucoup, 40 tweets par jour, c'est pas mal, non ?
Alors, a priori, si je regarde uniquement par rapport à mes propres usages, je dirais que c'est énorme, puisque moi, je ne tweete pratiquement jamais.
Oui.
Voilà, j'ai une veille sur Twitter très importante, mais en revanche, je ne suis pas du tout une tweetos. Ouais.
Et même par rapport à moi, qui suis un tweetos moyen, j'arrive pas aux 40 par jour. Non
voilà,
plus.
Mais par contre, comme je fais une veille sur Twitter, je sais qui sont les personnes qui tweetent énormément. On peut citer, par exemple, la militante Rokhaya Diallo, ou encore Sia Masbak, dont on parlait tout à l'heure, ou encore même Samuel Laurent, qui est journaliste chez Les Décodeurs. Du Monde, tout à fait. Et on voit bien qu'eux, ils parviennent facilement à faire 40 tweets par jour, et même bien au-delà.
Donc finalement, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'étude dit 300 par semaine, comme si c'était, je veux dire, que voilà, en faisant peser le soupçon quand même sur l'authenticité de ces tweets, voire en amenant à se demander s'il n'y a pas des robots derrière. Et en fait, ce que vous dites, vous, c'est que 300 par semaine, ça fait 40 par jour, et que c'est pas tant que ça, et qu'il y a beaucoup d'activistes Twitter qui sont des vraies personnes qui poste 40 tweets par jour.
Effectivement, donc ça pose déjà une première limite. Déjà, c'est la première limite de l'enquête. Ensuite, je m'intéresse à cet écosystème russophile. Donc je pose la question aux responsables pour savoir qu'est-ce que ça veut dire ce terme et comment on identifie des comptes russophiles. Et là, j'apprends que pour les identifier, durant une période de 2 mois, ils ont regardé si ces comptes-là tweetaient ou retweetaient des contenus des médias russes tels que Russia Today et Sputnik. Et il se trouve que si on tweet ou retweet des contenus de ces médias russes plus de 10 fois, on entre dans la catégorie de l'écosystème russophile, à condition en plus qu'il y ait une interaction entre ces comptes-là.
D'accord. Voilà. Bon, là, j'ai encore envie de vous dire, si vous voulez, pour me faire un peu les défenseurs de cette étude, que oui, un tweetos qui tweet ou qui retweet Russia Today ou Sputnik, on peut peut-être le qualifier de russophile.
Alors, c'est compliqué parce que, alors déjà, même Nicolas Mandermis, donc qui est le cofondateur de cette ONG, lui-même est revenu là-dessus. Il est revenu là-dessus en disant effectivement ça peut poser quelques limites, surtout que ils avaient étudié ces comptes-là bien avant, au mois de mai, quand les sites étaient tout jeunes, etc. Donc il était revenu lui-même là-dessus en disant que c'était un petit peu limité. En revanche, on peut aussi s'interroger sur le fait que comment on peut déterminer que des gens qui tweetent et retweetent le font sciemment. C'est-à-dire qu'on sait très bien que de nombreux utilisateurs de Twitter retweetent des contenus sans même les ouvrir et sans même savoir qui est véritablement la source.
Vous pensez ?
Ah oui.
Pensez qu'il y a beaucoup de tweetos qui retweetent du Russia Today, par exemple, sans être conscient que c'est du Russia Today.
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Ça, j'en suis certaine.
Ouais, je pense que vous avez assez raison d'ailleurs. Je pense que la pratique montre que effectivement, il y a beaucoup de gens qui tweetent sans entrer dans le contenu et sans même ça.
Avec
sans,
juste sans, un titre incitatif. Sans... Il suffit que le titre soit incitatif pour qu'on le retweete et qu'on soit d'accord avec ce titre.
Alors, quelles sont les autres faiblesses de cette enquête, selon vous ?
Alors, les autres faiblesses de cette enquête, pour moi, ça a été clair au moment où j'ai posé une série de questions aux analystes. Je leur ai demandé, alors, qui sont ces comptes hyperactifs ? Est-ce qu'ils ont été créés pour l'occasion de l'affaire Benalla ou est-ce qu'ils existent depuis plusieurs années et qu'ils ont, à cette occasion, tweeté massivement ? Je leur ai demandé, est-ce qu'il s'agissait de bots russes ou même de bots tout court ? Et là, ils ont été incapables de répondre à ces questions pourtant élémentaires. Donc, on ne pouvait que conclure à la non-fiabilité de cette enquête.
Ce que nous avons fait, et vous pouvez vous reporter à cette enquête excellente de Linda Zerout, qui a été d'ailleurs très reprise sur Twitter.
Oui.
Ben, par des comptes russes, j'imagine. Forcément.
Et non, pas que.
Alors, on va rester en Russie avec la fameuse affaire du tigre de Poutine sur laquelle vous avez enquêté.
Oui, tout à fait. En fait, au départ, on est sur France 2 et c'est un sujet du 10 août, assez léger, sur les vacances des présidents français. Il est suivi d'une présentation par la journaliste Valérie Astruc sur justement la question des vacances des présidents à l'international, où elle parle de Vladimir Poutine.
On écoute.
Vacances des chefs d'État, ce n'est pas qu'une question française. Bonsoir Valérie Astruc. Bon, d'abord, pour les vacances les plus surprenantes pour les dirigeants étrangers, il y en a un qui tient la palme, je crois.
Oui, c'est de loin Vladimir Poutine qui épate le plus la galerie. Chasse au tigre en Sibérie, plongée dans les eaux glacées du lac Baïkal avec le maître du Kremlin. La propagande ne prend jamais de congé.
Impressionnant, impressionnante photo.
De très belles photos et en fait, là, Russia Today crie sur Twitter à la fake news et accuse France 2 de fake news. En fait, Poutine ne serait pas en train de chasser le tigre sur l'image qu'on voit, il serait en train de participer à un programme de préservation en 2008. Et effectivement, ça va très vite et sur Twitter directement. Dans les réponses à RT France, on voit que d'une part, il y a des internautes qui ont fait un travail de fact-checking et qui ont trouvé des articles de 20 minutes où on voit le tigre. Effectivement, on reconnaît avec le même collier et avec une légende qui indique que c'est un programme de préservation des animaux.
Alors attendez, alors là, ces internautes retrouvent des images de quand en fait ?
Ces images, elles sont de 2008.
D'accord.
Et en fait, on voit que c'est le même contexte. C'est les mêmes treillis, c'est le même tigre, placé de la même façon, avec le même collier.
Le collier, c'est ce qu'on voit en bas, en bas de la photo, c'est le collier du tigre.
Donc, voilà.
OK.
Et France 2 elle-même, enfin la chaîne elle-même, a répondu aussi à RT en disant « Bah oui, désolé, ce n'est pas une fake news, c'est une erreur involontaire et nous allons la corriger dans le JT du soir ».
D'accord. Alors ça, c'est une erreur de France 2 rectifiée par rectifié par Russia Today. Mais alors vous avez eu envie d'aller plus loin.
Voilà, parce qu'en fait, il y avait d'autres éléments, d'autres vidéos qui laissaient à penser que ce n'était pas la première fois que France 2 se trompait. Et en effet, en 2013, France 2 avait fait un reportage. Alors le sujet, c'était que Brigitte Bardot avait menacé de s'exiler en Russie, qui était plus favorable à la préservation des animaux. Donc France 2 avait fait un petit reportage où elle répondait un petit peu, elle mettait le contexte des déclarations de Brigitte Bardot, et on y retrouvait les mêmes images du tigre.
Il y a un an déjà, Brigitte Bardot avait qualifié Vladimir Poutine de son premier ministre préféré pour avoir fermé les frontières russes aux importations de peaux de phoque, sans évoquer pour autant la passion du dirigeant russe pour la chasse ou encore le commerce de manteaux et habits en fourrure dans le pays.
Alors, c'est-à-dire que même dans un sujet en 2013 dans lequel Brigitte Bardot disait que Poutine était formidable avec les tigres, France 2 trouvait le moyen de dire que Poutine chassait le tigre. Toujours avec la même image, hein, c'est bien ça.
Alors, on voit que là, c'est la même image, c'est la même pose, c'est les mêmes personnes. Le tigre est hors cadre, donc ça illustre la chasse de Poutine. Mais on utilise encore ces images pour illustrer Poutine qui chasse.
D'accord.
Alors là aussi, je me suis demandé, mais comment ça se fait que tout le monde ait retenu cette idée de Poutine qui chasse le tigre, qu'on utilise ces images à plusieurs reprises pour des chasses de tigres, alors que ce n'est pas le contexte. Et en fait, en retrouvant la première diffusion de ces images sur France 2, eh ben, on se rend compte que c'est parce qu'il y avait avec une petite histoire qui a dû pas mal brouiller les pistes.
Comme en contrepoint, la télévision russe a diffusé ces images de Vladimir Poutine en treillis militaire et évoquait cette rocambolesque histoire. L'homme fort de Moscou aurait neutralisé une tigresse devenue menaçante pour des journalistes lors d'un reportage dans un parc animalier. Il aurait tiré une fléchette hypodermique juste à temps, écartant le danger.
Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé en 2008 ? En 2008, alors ce que je comprends, c'est qu'en 2008, le Kremlin, Poutine, a essayé de faire aux médias russes ou aux médias internationaux un formidable storytelling autour de Poutine sauvant une équipe de télé en endormant une tigresse qui leur sautait dessus. C'est bien ça.
C'est exactement ce qui s'est arrivé. Alors, ce qui s'est passé. Effectivement, à l'époque, Poutine était assez coutumier d'histoires de ce genre. C'est-à-dire que pour parler de la préservation du tigre, il y a la petite histoire dans laquelle il sauve une équipe télé en tirant sur la tigresse, une fléchette qui l'endort. Bon, tout le monde a retenu Poutine a tiré sur un tigre. Et il y avait eu d'autres histoires. Il avait été retrouvé, il avait été dans la mer Noire pour participer à un programme sur le patrimoine. Il était remonté avec une amphore. C'était tout un tas de petites histoires que Poutine a assumé plus tard être des montages, des mises en scène. À la journaliste Masha Gessen qu'il avait reçu pour une interview, en disant c'est des mises en scène, mais ça sert à mettre en valeur les programmes de préservation de la nature et du patrimoine.
Voilà, donc en résumé de l'affaire, ce que nous avons résumé dans le titre d'Arrêt sur image par non, Poutine ne chasse pas les tigres, il les met seulement en scène.
Voilà.
Voilà, et l'histoire complète, évidemment, à lire sur notre site. Est-ce qu'on passe à l'aéroport d'Orly ?
Oui, bien sûr.
Oui, alors, aéroport d'Orly, dont un des faits divers de l'été, bagarre entre deux rappeurs.
Voilà, donc juste au moment où la bagarre de Benalla commence à retomber dans les médias, heureusement, une deuxième bagarre est arrivée pour réalimenter la machine. Donc ça se passe le 1er août. Les rappeurs Booba et Kaaris qui s'échangent des messages enflammés, dans le mauvais sens du terme, depuis plusieurs années, se retrouvent dans le même terminal de l'aéroport d'Orly pour prendre le même avion pour l'Espagne. Et là, c'est le clash. Ils se tombent dessus. Et en plus, comme il y a énormément de gens avec des portables autour, il y a tout un tas de vidéos qui vont circuler, qui vont être prises par les réseaux sociaux et qui vont être prises aussi par les médias. Et donc, dans les médias, ça s'enflamme aussi. C'est-à-dire que tout le monde se met en tête d'analyser pourquoi le clash, pourquoi toute cette culture-là.
Un petit montage, peut-être.
Voilà.
Cette bagarre, c'est un simple fait divers ou alors ça en dit long sur la société française ?
Non, ça en dit long quand même sur notre société. On voit bien qu'on a avec le rap une contre-culture ou une paraculture.
Et dans le rap, on cherche toujours un peu le clash. On cherche aussi la rivalité. Parfois, dans les mots et dans les paroles, il y a de l'invective. On se cherche, si tu veux.
On a quelque chose entre ces deux-là, du 9-2, Booba contre le 9-3, Kaaris qui ressort aussi. Parfois, on a des cultures de clans.
De toute façon, l'image qui est envoyée, elle est déplorable. elle est déplorable.
Il y a quand même une culture de la violence. Alors les nôtres, ils se cognent aux États-Unis, ils se tirent dessus.
Il n'y a pas quand même une volonté de créer le buzz, de mettre en scène ces bagarres?
Parce qu'en effet, ça va sans doute faire vendre encore plus de disques, parce que la culture de la violence, hélas, c'est aussi un business.
Alors, c'est vrai qu'à ce stade, on ne voit pas encore très bien comment nous, on pourrait intervenir, si vous voulez, noir et sur image. Bon, alors sinon, pour faire un article disant « mais les médias mainstream n'y connaissent rien au rap, ils le ramènent toujours à cette image de violence et de bagarre, mais enfin, on l'a déjà dit 10 fois, ce ne serait pas très neuf. Quand paraît une interview ?»
Voilà, en fait, ce qui manque beaucoup dans cette analyse, c'est des gens qui ont une parole un peu autorisée, un peu légitime sur le rap. Et en fait, ces gens-là vont s'exprimer d'abord sur Twitter en indiquant qu'ils refusent les interviews. Et ensuite, dans une longue interview dans le site en ligne de Hypebeast, dans lequel, en fait, donc la journaliste Anadi Mostefa interviewe 2 journalistes spécialisés sur le rap. Donc Mehdi Maizi, qui est animateur radio spécialisé rap, et Fif, qui est cofondateur du site Bouscapé, qui est un des sites de référence. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que toute la sphère du rap a été contactée par les médias mainstream et presque tout le monde, sans se concerter, a refusé les invitations. Et ils expliquent pourquoi, dans les grandes lignes, ils disent, bah voilà, de toute façon, on ne peut pas parler, on peut pas parler des vrais sujets sur les médias mainstream, et puis on n'en a plus besoin, parce qu'on a nous-mêmes notre sphère médiatique. Donc ça nous interroge, parce que ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, qu'on ne connaît pas trop.
Sous les radars.
Sous les radars.
Sous les radars des médias mainstream, et c'est là qu'on se demande, mais au fond, quelle est cette sphère médiatique ?
Tout à fait.
Et vous partez en exploration de cette sphère médiatique du rap souterraine.
Voilà. Donc l'idée, c'est de donner quelques clés pour comprendre là où ça se passe et justement qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui ne se discute pas dans les médias mainstream et qui se discute dans cette sphère du rap.
Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous partez de très loin, parce que vous n'êtes pas spécialiste du rap, moi non plus.
Voilà.
Donc on part tous de très loin dans l'équipe.
Tout à fait. Bah, sur cet article-là, je travaille avec Juliette Gramaglia. Ni l'une ni l'autre, on ne connaît bien le rap. Et donc, on s'attaque à quelque chose où il y a des gens qui sont experts depuis 30 ans. Donc, l'idée, c'est quand même de réussir au moins à les trouver.
Et à ne pas dire trop de bêtises.
Et à ne pas dire trop de bêtises.
Pour ne pas avoir de bad buzz sur Twitter.
Tout à fait. Donc, on a quelques pistes. On a les gens qui ont participé à l'interview. Donc, je les contacte. Ils répondent tous très gentiment. Ils sont très contents d'être contactés à ce sujet-là. Mais soit ils se sont déjà exprimés, ils ne souhaitent pas s'exprimer, soit ils ne sont pas disponibles. Et puis sinon, ce qu'on a, c'est aussi les gens qu'on connaît qui connaissent le rap.
Ah, donc, vous ne connaissez pas le rap, mais vous connaissez des gens qui connaissent le rap.
Qui connaissent mieux le rap, déjà. Donc, je contacte un indique. C'est, en l'occurrence, c'est le responsable des abonnés à Mars Actu, où j'étais en stage, et donc qui avait tweeté notamment les réponses des rappeurs et l'interview sur son compte Twitter. Donc, je viens vers lui et donc, il me donne quelques clés. Il me dit, voilà, il y a machin, il y a truc, etc. Et il me parle notamment du journaliste spécialisé rap, Génono. Et en fait, pour notre sujet, c'est très intéressant parce qu'en fait, Génono, il fait partie des gens qui ont essayé de tenter le coup avec la télé. Il l'a mis sur son Twitter, il dit, au départ, je vais mouiller ma chemise, je vais aller dans les médias. Puis il en a été très déçu. Alors, j'appelle Génono, qui est d'accord de parler là-dessus. Et donc, il m'explique un peu quel a été son problème. Lui, notamment, il est allé sur France 2, il a été interrogé pour un sujet. Donc, il me dit, ça partait bien. Les journalistes m'ont dit, on a aussi interviewé une spécialiste du hip-hop, philosophe, qui a dit des choses positives. Il m'interroge pendant 25 minutes. Moi, j'en fais des tonnes. Je parle de l'action humanitaire des rappeurs. Je parle des fournitures scolaires que certains achètent pour leur quartier, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui passe de positif, d'important sur ce qui fait le rap. Et puis, en fait, qu'est-ce qui reste dans le reportage? C'est ça.
La culture du clash, elle existe dans le rap, que ce soit le rap français ou le rap américain. Et on essaye toujours de ridiculiser l'adversaire ou de prendre le dessus d'une manière ou d'une autre. C'est presque plus une compétition entre guillemets sportive, même si l'esprit n'est pas toujours très sportif. Mais c'est plus dans cette idée-là que vraiment dans un esprit d'agressivité, de violence, etc.
C'est intéressant, ça, parce qu'on voit bien comment un montage télé peut faire dire à un intervenant à peu près le contraire de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que lui, il dit bien que c'est la culture du clash, il appelle ça au début. au début de son intervention, il dit la culture du clash, elle existe dans le rap, etc. Il explique bien que lui, il situe ça davantage dans un contexte d'émulation sportive que de bagarre. Mais en même temps, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a un spécialiste du rap qui parle de bagarre et qui parle de... Voilà, donc on voit bien que de toute façon, à partir du moment où vous êtes interviewé par un média mainstream, une chaîne de télé, vous savez qu'on va retenir que 20 secondes de ce que vous allez dire. De toute façon, ils vont garder ce qui va entrer dans leur angle, dans leur sujet. Voilà, de l'avantage des émissions en direct. Ou en tout cas non montées. Voilà, donc alors pareil, pour tout connaître sur l'écosystème, alors après l'écosystème russophile, l'écosystème du rap, pour tout connaître sur l'écosystème du rap, l'article de Julie Lemestre, pourquoi les spécialistes du rap boycottent les médias mainstream. Rien à voir, mais un mot sur Parcoursup, un petit point sur Parcoursup. Alors, on a aussi travaillé sur Parcoursup pendant les vacances. On était resté avant les vacances avec une émission dans laquelle on se rendait compte que énormément d'étudiants n'avaient pas encore reçu de lycéens n'avaient pas encore reçu de réponse du système Parcoursup, avec le ministère disant mais il n'y a pas de problème, ça va se régler dans l'été et à la fin de l'été. Donc on a voulu, dans le courant du mois d'août, savoir où on en était.
Ah bah oui, c'est l'heure du bilan, puisque donc, c'est bientôt la rentrée, et elle n'avait pas le choix de soumettre aux questions-réponses. Dominique Vidal, donc la ministre de l'enseignement... Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur. Et donc, elle a donné les derniers chiffres de la plateforme post-bac, donc pour l'accès à l'université. On va l'écouter d'abord sur France Inter.
Quelques jours de la rentrée universitaire sur la plateforme Parcoursup, combien y a-t-il ce matin de candidats toujours sans inscription définitive dans le supérieur ?
Alors il y a ce matin un petit peu moins de 9000 bacheliers et un peu moins de 15000 candidats qui au total sont accompagnés par les commissions de façon à trouver leur place pour la rentrée. Et ils sont un peu plus de 591 000 à savoir où ils seront à la rentrée.
Ok, donc 15 000 ne savent pas, 591 000 savent, si j'écoute la ministre.
Oui, et c'est important de bien retenir ces chiffres de 15 000 qui ne savent pas, parce qu'en fait, ils sont incomplets. Et c'est ce que va expliquer Guillaume Ouattara, qu'on a reçu justement dans notre émission dédiée à Parcoursup. C'est un jeune ingénieur, un jeune étudiant en école d'ingénieur, et il a décrypté le code source de Parcoursup. Donc on peut dire qu'il est spécialiste. Il a été interrogé par Brut, on va l'écouter.
Et entre-temps, si je peux juste le dire, il a trouvé un job, il est entré au Figaro pendant l'été. Comme spécialiste de l'éducation.
Il était blogueur invité du Monde. Je savais qu'il avait quitté, mais je ne savais pas qu'il était au Figaro.
C'est le transfert de l'été, Linda.
Ah, voilà.
On l'écoute.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 165 000 candidats qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à la rentrée de septembre. Soit c'est des candidats, ils sont 100 000, qui ont accepté une première proposition, mais qui ont gardé d'autres propositions en attente, donc qui ne sont pas inscrits. Soit c'est plus dramatique, c'est 65 000 candidats qui sont toujours en liste d'attente partout, qui n'ont reçu aucune proposition et qui attendent que le système leur fasse des propositions.
Alors évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres que le gouvernement.
Non, et c'est très important ce qu'il dit, parce que là, il parle de 100 000 candidats qui... sans affectation définitive. Ils ont bien reçu une proposition, mais ils ne l'ont pas encore validée parce qu'ils sont en attente de mieux. Voilà. Et les 65 000 autres dont ils parlent, eux, n'ont reçu aucune proposition et en réalité, ils sont en attente sur Parcoursup, sauf que le gouvernement les a qualifiés de candidats inactifs. Et inactifs, ça veut dire qu'ils ne donnent aucun signe de vie auprès des commissions d'orientation qui les interpellent pour leur dire qu'il faut s'orienter dans telle et telle filière, où il reste des places, etc. Or, moi, j'ai interrogé Guillaume Ouattara. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'en réalité, ils n'ont jamais été contactés, ces gens-là. Il a, parmi son entourage, par exemple, des gens qui sont catégorisés dans ces inactifs et pourtant qui n'ont jamais été contactés. Voilà, c'est la première chose qu'il me dit quand il interroge au téléphone. Et la deuxième chose qu'il dit et qui est très importante, il a bondi tout de suite au moment où il a entendu la création de cette catégorie d'inactifs. Parce que pour lui, il dit clairement que là, le gouvernement utilise les mêmes procédés de communication qu'on emploie pour communiquer les chiffres du chômage.
Et par ailleurs... Et pour les faire baisser.
Et pour les faire baisser, exactement. Et par ailleurs, en plus... c'est avantageux d'utiliser ce terme d'inactif pour le gouvernement. Pourquoi ? Parce que ça permet de renverser la charge de la responsabilité. Du coup, ce n'est pas les défaillances de Parcoursup qui provoquent le fait que ces candidats sont sans proposition, mais c'est simplement parce qu'ils ne donnent pas signe de vie.
Voilà, et on lit tout ça dans votre enquête, Linda, une enquête du 14 août, si jamais vous l'avez raté. Alors, on va terminer par le feuilleton de l'été. Alors, non pas en France, mais en Grande-Bretagne, le feuilleton de la presse britannique, autour de Jeremy Corbyn et de son antisémitisme supposé.
Alors. Oui. Alors, la question, c'est pas forcément Jeremy Corbyn lui-même au départ. En fait, le parti travailliste britannique est en contexte de crise politique autour de la question de l'antisémitisme. Il est reproché à Jeremy Corbyn, en fait, de pas savoir assez bien maîtriser réprimer les membres du parti qui sont accusés de propos antisémites. Et en fait, pour régler le souci, ils avaient voulu adopter une définition internationale de l'antisémitisme, mais pas de façon complète, ce qui du coup a rajouté de l'huile sur le feu. Et donc dans ce cadre-là, comme c'est la crise, forcément les journaux cherchent ce qu'ils peuvent trouver pour alimenter les choses.
Les journaux anti-Corbyn, mais pas seulement.
Hein, mais pas seulement, ouais. La presse en règle générale. Et donc trouve des vieux dossiers sur Corbyn. Des fois, c'est des choses qui sont déjà remontées, parce qu'il y a déjà eu plusieurs rounds d'attaques contre Corbyn.
Souvent, hein, quand même, hein, souvent. Moi, ouais. J'ai regardé la presse britannique, je veux dire, c'est un déferlement, c'est tous les jours, et effectivement, avec souvent des vieilles affaires qui remontent.
Oui. Et donc, des fois, c'est du réchauffé, des fois, c'est du neuf. En tout cas, l'affaire qui a le plus fait couler d'encre, qui a été le plus reprise dans la presse britannique, mais aussi à l'international, on a vu quelques articles aussi en France à ce sujet-là, c'est celle qu'on pourrait appeler l'affaire du dépôt de gerbes de fleurs au cimetière de Tunis. En fait, au départ, donc ça se passe en 2014, donc avant que Jeremy Corbyn ne devienne chef du Parti travailliste, il participe à Tunis à une commémoration des victimes d'un raid israélien qui avait eu lieu en 1985 sur le siège de l'OLP qui se trouvait à Tunis à l'époque. Donc il y a eu plusieurs victimes, il y a une stèle commémorative. Et en fait, ce dont il est accusé, c'est d'avoir commémoré en même temps, à cette occasion, des leaders de l'OLP qui auraient été liés à la prise d'otage de Munich. Donc ça a eu lieu en 1972 et plusieurs athlètes israéliens avaient été tués à l'occasion de cette prise d'otage.
Pendant les Jeux Olympiques de Munich.
Pendant les Jeux Olympiques de Munich, tout à fait. Les accusations, elles ont d'abord surgi en 2017. C'était pendant la campagne des législatives anglaises. Elles ont été relancées, en fait, ce mois d'août par le Daily Mail qui prétend, en fait, photo à l'appui, que Corbyn aurait spécifiquement rendu hommage au leader de l'OLP. En gros, il fait un petit montage en disant « les tombes sont là, Corbyn est là, donc en fait, Corbyn est devant les tombes, etc. » Bon, sur la réalité, en fait, il faut nuancer. D'une part, quand on lit rapidement, on a l'impression que Corbyn est allé déposer des fleurs directement sur la tombe des preneurs d'otages de Munich. Les gens qui sont enterrés dans le cimetière, ce n'est pas les preneurs d'otages eux-mêmes, donc c'est des dirigeants. Ils ont été accusés, et ça se tient peut-être, hein, d'être impliqués dans la préparation de ces attentats, mais en tout cas, eux l'ont démenti toute leur vie. Donc c'est un peu compliqué de savoir juger. D'autre part, la BBC s'est rendue aussi sur place pour vérifier les accusations du Daily Mail
dans le même cimetière.
Et elle indique, en fait, dans son reportage, que l'endroit où se trouvait Jeremy Corbyn, c'est l'endroit où a lieu chaque année une commémoration, donc qui commémore les victimes du raid de 1985, donc ce qu'il indique depuis le départ, et aussi les leaders de l'OLP. Donc, difficile là-dessus de conclure quelque chose.
Ouais, donc là, on a une affaire dans laquelle, on va dire, l'accusation contre Corbyn n'est pas très conclusive. Est-ce que les réponses de Corbyn aident à dissiper les doutes ?
Alors là-dessus, en fait, Corbyn a une défense qui n'est pas très claire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il virevolte un petit peu. À l'époque, en 2014, il écrit une chronique où il raconte sa participation donc, à la commémoration. Et donc, il dit effectivement qu'il est là au sujet du raid. Et il dit bah, des gerbes ont été déposées pour les victimes du raid. Et puis aussi pour un autre qui a été tué à Paris en 1991, qui semble correspondre à la description d'un des leaders de l'OLP enterré. En 2017, quand même, on lui demande, est-ce que vous avez commémoré la mémoire de Atef Zesso, c'est le nom du leader de l'OLP. Il dit, pas du tout, moi j'étais là, de toute façon, dans le cadre d'une conférence pour la paix, et donc j'ai jamais commémoré de gens liés au terrorisme. Effectivement, la commémoration, elle était dans le cadre d'une conférence pour la paix organisée notamment par différents leaders palestiniens, avec d'autres personnalités internationales. Donc ça, c'est ce qu'il répond en 2017. Et en 2018, quand il est à nouveau interrogé sur le sujet, voilà ce qu'il répond.
Were you involved in that reclaim?
I was present when it was laid. I don't think I was actually involved in it.
Alors, j'étais présent quand elle a été déposée. Je ne pense pas que j'ai vraiment participé. Là, ça me rappelle, il y a un petit côté à l'insu de mon plein gré.
Il y a un côté un peu comme ça, et c'est ce qu'ont pointé notamment des parlementaires travaillistes juifs qui ont dit « bah oui, mais quand on est présent à une cérémonie, ça veut dire quelque chose aussi ». Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Corbyn n'a pas été remis en cause à la tête du Parti travailliste. Il a fait une tribune en début août dans le Guardian, justement, pour évoquer la question de l'antisémitisme, ce qu'il allait faire à ce sujet. Mais il a des demandes toujours de plus en plus pressantes de clarifier et de compléter, en fait, l'adoption de la définition de l'antisémitisme au sein du Parti travailliste.
Donc la question est encore pendante. Alors ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous le disiez au début, cette affaire du cimetière de Tunis n'est pas la seule qui est servie contre Corbyn. Il y a énormément de circonstances dans lesquelles il est accusé de complaisance pour le terrorisme et dans lesquelles ses réponses ne sont pas forcément très claires. Et on retrouve tout ça dans votre enquête titrée « Pluie d'articles et réponses floues ». Eh bien, écoutez, merci à toutes les deux. Je crois qu'on a fait le tour des principaux papiers d'été. On n'a pas fait que ça. Vous pouvez toujours aller tous les lire. Donc voilà, c'était notre rattrapage de rentrée. Et dès la semaine prochaine, on passe vraiment à la rentrée, à la semaine prochaine.